votre étude portait sur Bruxelles, il y a eu un équivalent sur la Wallonie ?
Notre étude, elle porte sur l'ensemble de la Fédération de Bruxelles. Okay. Ouais.
Sur tous les réseaux ?
Oui.
En fait, déjà, merci beaucoup pour les trois interventions. Je pense, tout le monde voudrait aller plus au fond des questions. C'est difficile de faire rapidement. Moi, j'ai juste une question par rapport à l'étude sur Iris Borch et le fonctionnement de l'inscription à l'école. Je me demande, est-ce que vous avez vérifié comment ça fonctionnait avant, quand les inscriptions, notamment, étaient beaucoup par téléphone, parce que c'est comme ça que ça a marché à Bruxelles. Parce que moi, je pense plutôt que les soucis soient dans les systèmes, comme vous disiez, première arrivée, première servie, plus que sous l'outil utilisé. Parce que les récits que j'ai de quand c'était par téléphone, la réalité, c'était des attentes interminables, où les personnes qui avaient un réseau social plus étendu avaient plus de réponses. Parce que j'ai demandé à ma soeur, à ma cousine, à ma mère, à ma tante, donc on était à 15 à téléphoner pour les mêmes enfants, alors que les personnes qui avaient un réseau social plus réduit, restreint, avaient des difficultés. Et je pense que, bon, probablement les deux groupes dominants qui se réalisent maintenant, ce n'est pas les mêmes qu'avant, mais en partie, ça va coïncider. Donc je me demande, est-ce que c'est l'outil Xbox ou alors téléphone, ou alors est-ce que c'est le fonctionnement des fonds, c'est première servie, première arrivée, première servie, et c'est ça qui marche pas
pour moi. Mais j'ai ici à côté Annick Richt qui est beaucoup plus expert que moi à la question. Tout à fait, je veux dire, le problème est première arrivée, première servie, on est d'accord. Et dans les systèmes téléphones qui étaient avant, aussi, il fallait savoir que c'était, je vais dire encore, les lundis 6 à 8 heures qu'il fallait appeler. Il fallait appeler avec 15 personnes et il fallait aussi savoir quelles étaient, entre guillemets, les bonnes écoles. Tout ça, déjà, plein de familles des milieux populaires ni savaient qu'il fallait appeler les premiers jours à 8 heures, que c'était important parce qu'il y avait des bonnes écoles et des mauvaises écoles et qu'au système belge, ça a une importance majeure. Par exemple, pour moi, quand je suis espagnole, quand je suis arrivée, je savais pas, parce que moi, dans mon expérience en Espagne, tu inscris tes enfants à l'école qui est plus proche de chez toi. Point. Et donc, il n'y avait pas cette... Et donc, j'ai eu tout un sujet avec mon compagnon sur pourquoi ici sont les écoles. Donc, j'ai commencé à découvrir ça ici. Donc, je pense que si, le système, c'est ça, tout à fait. Mais je pense quand même que passer au tout numérique, aussi, ça fait une petite pierre en plus dans la...
Ouais. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire, mais juste un point. Derrière le numérique, le problème numérique que tu as évoqué, et derrière le principe premier arrivé, premier inscrit, le problème fondamental, c'est que en Belgique, on a remplacé la liberté de choix d'une école par l'obligation de choisir son école. Nous sommes, je vous le signale quand même, le seul pays d'Europe absolument, et à ma connaissance, au monde. Mais bon, en tout cas, le seul d'Europe où, quand un enfant entre à l'école maternelle, primaire, ce sont les parents qui doivent trouver l'école. Dans tous les pays, on commence par proposer aux parents une école. Vous avez une place réservée pour vous, là. L'école, en général, la plus proche du domicile. La place est réservée. Et si vous n'en voulez pas, alors là, ça dépend des pays. Dans certains pays, si vous n'en voulez pas, vous devez aller dans l'enseignement privé. Dans d'autres pays, si vous n'en voulez pas, vous devez demander une autorisation, vous devez justifier et obtenir l'autorisation de l'inscrire ailleurs. Dans d'autres pays, si vous n'en voulez pas, vous êtes libre d'aller chercher une place ailleurs, etc. Mais dans tous les pays du monde, enfin, en tout cas, du monde développé, en Europe en particulier, on commence par vous proposer une place dans une école, par vous réserver une place quelque part. Si on faisait déjà ça, si on faisait déjà cette démarche-là de dire aux parents, voilà, il y a une place pour vous là-bas, vous la voulez pas, vous pouvez aller ailleurs. Mais si vous l'acceptez, vous avez la place garantie. Je pense que pour ce que montrent les études sociologiques, c'est que les parents de classe populaire, en général, acceptent l'école qui leur est proposée. Et si, en plus de ça, les pouvoirs publics utilisaient ce levier qui serait alors dans leurs mains, l'utilisaient pour affecter les élèves aux écoles de façon à maximiser la mixité sociale des établissements scolaires, on résoudrait par la même occasion le plus grave, c'est toi qui l'as évoqué, un de vous deux l'a évoqué, le plus grave problème de notre enseignement, à savoir le taux de ségrégation sociale de cet enseignement, qui est champion d'Europe, là aussi.
J'ai une question sur... Ça réglerait en effet le fait de ne pas galérer avec les inscriptions et ça leur permettrait d'avoir une inscription dans une école. Mais dans d'autres pays justement où c'est le cas, le problème des inégalités reste le même puisque les zones où il y a des milieux sociaux défavorisés sont les zones où l'école sera à côté de cette zone et donc tous les enfants de cette zone iront dans cette école et souvent à 100 mètres. Il y a la zone résidentielle avec l'école appropriée pour la zone résidentielle. Donc ça ne règle pas forcément ce problème.
On s'éloigne du sujet du numérique, mais je vais quand même répondre à ce point parce qu'il est crucial. Un, à Bruxelles, on a une ségrégation résidentielle qui est très claire. On a une ségrégation scolaire aussi. La ségrégation scolaire est plus forte que la ségrégation résidentielle. Ça veut dire qu'à Bruxelles, si chacun allait à l'école la plus proche de son quartier, de son domicile, pardon, on aurait moins de ségrégation sociale scolaire que ce n'est le cas aujourd'hui. Hein, Bernard Delvaux et Elie Serrat, je n'arrive jamais à dire son nom, Serrat Dioglou, ont montré ça dans une étude tout à fait intéressante dans les cahiers du GIRSEF. Ça, c'est un. Mais ce que moi, je viens de proposer, c'est pas que chacun obtienne une place garantie dans l'école la plus proche, c'est que chacun obtienne une place garantie dans une école choisie de telle sorte que on ne prend pas forcément l'école la plus proche, mais on affecte, on fait une recherche proactive d'affectation des élèves de sorte que on puisse maximiser la mixité sociale. On n'obtiendra évidemment pas une mixité sociale totale dans le sud-ouest de la région bruxelloise. Il y aura des écoles ghetto de riches, d'accord? Mais on peut éviter les ghettos de pauvres dans le centre parce que les distances entre quartiers de classe moyenne et quartiers populaires ne sont pas immenses chez nous. Et si en plus on combine ça avec des systèmes de transport scolaire adaptés et privilégiés pour ceux qui acceptent l'école qui est proposée, etc. On a fait une étude avec Bernard Delvaux aussi montrant qu'à Bruxelles, il est possible, avec ce système-là, il est possible d'avoir une affectation des élèves aux écoles où la distance moyenne domicile-école serait réduite de 40% par rapport à ce qu'elle est aujourd'hui. D'accord? Donc les élèves iraient en moyenne beaucoup plus près. Distance réduite de 40%. Et le pourcentage d'élèves qui fréquentent des écoles ghetto, par ghetto on entend une école dont l'indice socio-économique s'éloigne de plus d'un demi-écart type de l'indice socio-économique de la région. Donc il y a des ghettos de riches et des ghettos de pauvres. Maintenant, à Bruxelles, il y a à peu près 40% d'élèves en ghetto, en école ghetto, et on réduirait ça à 6%, de 40% à 6%. Et ce ne serait plus que des ghettos de riches. Il n'y aurait plus d'école ghetto de pauvres.
Mais c'est à ajouter que dans le système de l'anglophone, l'inscription
comment
l'enseignement fondamental,
oui.
Ça se rapproche de ce que vous avez conceptualisé dans le sens où...
Oui.
Il y a un algorithme en fonction de l'éloignement géographique des familles, de l'école, mais aussi du niveau de scolarité de la maman.
Oui.
Voilà. Donc, eux, donc il y a une certaine mixité quand même, en tout cas dans le centre-ville. Bien sûr, on parle des quartiers du centre-ville et des quartiers qui ne sont pas les ghettos du sud-ouest.
Et pour rejoindre ce que tu disais sur « il ne s'agit pas de rejeter l'ordinateur, de rejeter l'informatique », une telle procédure d'inscription ne peut se faire que par un algorithme sur ordinateur. Donc c'est pas quelqu'un qui va dire « Ah, je propose que tel élève aille là ». Non, c'est un algorithme informatique qui va se faire le travail. Mais Bernard Delvaux et moi, on a fait un tel algorithme test pour Bruxelles, on l'a fait tourner et ça marche très bien.
Oui, du coup, c'est pas premier arrivé, premier servi.
Ah non, c'est pas du tout le premier arrivé, premier servi.
On peut s'inscrire le dernier jour du
Et donc, ça, ce serait la première phase. Et puis, tu aurais une deuxième phase qui serait pour les parents qui refusent l'école qui leur est proposée. On leur demanderait de faire une liste des écoles où ils préféreraient aller. Hein, et cette liste est de nouveau centralisée. Il y a un nouvel algorithme qui affecte alors sur base de cette liste proposée. Et puis, il restera probablement une dizaine de pourcents d'élèves ou de parents qui n'auront accepté ni la première proposition, ni la deuxième. Et eux, ben, ils auront fait le choix de s'engager sur le libre marché scolaire. C'est leur choix à ce moment-là, mais c'est plus une obligation. Et là, on peut appliquer le premier arrivé, premier servi, ça ne me gêne pas.
Alors, juste deux remarques ou deux informations. La première concernant l'utilisation d'Internet, notamment dans le secteur primaire. J'étais directrice dans une école fondamentale de quartier défavorisé dans la région de Charleroi. L'école a pu bénéficier effectivement de la subvention. À l'époque, c'était encore, je ne sais plus si c'était 75 ou 150 euros, mais peu importe. Ma remarque concernant ça, c'est que si les parents, effectivement, on avait fait un marché unique, tous les parents avaient la possibilité d'aller dans un magasin, acheter le même outil pour les élèves. Le problème que nous avons rencontré, c'était à domicile, les connexions Internet et l'aspect financier que cela engendrait. Donc effectivement, la fédération a donné de l'argent, mais ce coût ne suffisait pas pour pouvoir continuer l'utilisation à domicile. Je voulais juste dire ça, que c'est bien de vouloir... Il y a un amont, mais il y a aussi tout le reste qu'il faut. Alors, le CPAS pouvait intervenir, mais toutes les familles ne font pas la démarche d'aller dans les CPAS demander une aide financière. Donc, par rapport à ça, je voulais juste dire...
C'est une intervention tout à fait pertinente. Alors, je vais commencer par la deuxième partie, à prévenir la deuxième, mais sur la question du CPS, on sait malheureusement que, malheureusement, heureusement, je ne sais pas, mais l'autonomie du CPS fait que d'un assistant social à un autre, d'un CPS à un autre, la politique va être différente. Et donc, on a rencontré en amont de cette étude les fédérations de CPS pour les sensibiliser au fait que depuis Covid, il y avait cette explosion du coût du numérique. Donc, on a fait passer l'information, du coût moyen du numérique par élève, mais ils ne peuvent que sensibiliser. Et donc, il y a des CPS qui donnent des aides financières, il y a des CPS qui n'en donnent pas, y compris quand le parent va demander de l'aide, parce que le CPS ou que l'assistant social estime à ce moment-là que la législation dit que c'est volontaire et que c'est facultatif, et que du coup, en fait, si la législation dit que c'est une proposition, en fait, c'est pas strictement nécessaire, donc c'est pas au CPS d'aider. Pour mettre aussi les choses dans, malheureusement, le contexte du sous-financement chronique des CPS par rapport à l'ensemble des missions qu'ils doivent faire et par rapport à la précarisation extrême de la population qu'on a connue ces dernières années, qui fait que on renvoie de plus en plus, les gens maintenant, ils sont exclus du chômage, on les renvoie au CPS, ils sont exclus de la maladie, on les renvoie au CPS, il y a la crise Covid, on les renvoie au CPS, c'est très compliqué. Ah non, je sais, mais je donne du contexte, c'était pour aller dans votre sens, justement. Et alors, sur le premier, je voulais juste être certain, donc c'était, vous êtes directrice d'une école primaire ?
D'une école fondamentale.
Alors là, il y a un problème, parce que l'aide qui a été proposée, cette aide-là, celle dont je parle, elle ne peut s'activer que pour l'enseignement secondaire.
Mais alors, c'était peut-être un budget que la ville de Charleroi a dégagé,
c'est possible.
Ça c'est fort possible. Ouais. Mais donc, c'était simplement pour dire qu'on a bénéficié de cette subvention. Elle n'était sans doute pas communautaire, mais communale.
Ouais.
Mais malgré tout, ça n'a pas été possible pour toutes les familles d'aller au-delà d'un certain niveau. Et pour un coût financier, même si le matériel était fourni.
C'est ça, mais donc ça signifie que l'école, à ce moment-là, vu cette aide, proposait, demandait aux parents d'acheter un ordinateur par élève.
Voilà, les parents remplissaient un questionnaire,
ouais.
Ils pouvaient aller dans un magasin avec un bon d'achat, chercher le matériel et tous les élèves disposaient du même matériel.
Et donc 150 euros issus de ça et le complément donné par les familles.
Et le complément était donné par... Non, le budget permettait, on avait fait un calcul,
Pour
que tout soit acquis avec ce budget-là.
C'est ça.
Donc il n'y avait pas de dépenses supplémentaires. Là où la difficulté s'est avérée, c'était sur, en amont, dans les familles, le coût de la connexion Internet... Puisqu'ils avaient des trop petits abonnements que pour pouvoir travailler et s'étendre dans des recherches trop fastidieuses. Voilà. Et alors, ma deuxième question, là, elle s'adresse plutôt à M. Lutz. Quand vous avez parlé de la dérégulation du système, vous avez parlé ou abordé, je n'ai peut-être pas bien compris, de la concurrence entre les écoles, mais là, je ne maîtrise sans doute pas très bien, il y a quand même la création de bassins scolaires. Qui justement doivent permettre que les écoles au niveau secondaire puissent éviter cette concurrence en proposant telle formation dans une, telle formation dans l'autre,
et ce, dans un bassin scolaire.
Oui, c'est exact.
Donc, je ne comprends pas bien le problème de cette concurrence par rapport au numérique, alors.
Non, mais je ne parlais pas spécifiquement pour la Fédération Wallonie-Bruxelles. Hein. Je parlais que, globalement, au niveau de l'ensemble des pays industrialisés, il y a une tendance à abandonner, ou à remplacer les systèmes éducatifs gérés centralement par l'État, par des systèmes où les écoles, où les entités régionales sont beaucoup plus autonomes, où il y a davantage de compétition, de concurrence entre les systèmes scolaires, donc d'aller de plus en plus vers un système de ce qu'on appelle de quasi-marché scolaire. Hein? Ça, c'est une tendance lourde depuis 30 ans au niveau des systèmes éducatifs. Alors, c'est vrai qu'en Belgique, où le quasi-marché scolaire est déjà historiquement très, 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 très développé, il y a, et ça peut sembler paradoxal, des tendances à réguler ce quasi-marché scolaire. Par exemple, avec les bassins scolaires. Mais on reste quand même fondamentalement dans un système très compétitif et très concurrentiel.
Merci.
C'est un Berlin, mais c'est en lien avec ce que Nico a dit avant. Je pense que c'est extrêmement important l'étude que vous avez faite. Ce qui me manque un tout petit peu, c'est la contextualisation. C'est-à-dire que la question de finance derrière le numérique n'est qu'un pan du problème. Si on prend en compte la tendance lourde que Nico a décrite vers l'inversion, les pédagogies inverses, etc., on relaie aussi une bonne partie de l'apprentissage vers la maison. Et à ce moment-là, avoir un ordinateur, un accès à Internet, c'est une chose, mais il faut aussi voir les conditions dans lesquelles on peut travailler pour apprendre. Et donc, la question du logement, etc., joue évidemment un rôle massif aussi. Donc, je pense que c'est extrêmement important, c'est vrai pour tous les devoirs, si tu veux, mais avec la numérisation et la tendance vers les classes inversées, c'est encore plus renforcé.
Oui, tout à fait. Et c'est... Notamment par manque de temps, je n'ai pas pu aborder suffisamment la partie éducation au numérique de notre enquête. Mais donc c'est évident que les propositions qu'on amène sur la question du coût de l'équipement, elles se font dans le cadre actuel. Et donc dans le cadre actuel, c'est vrai, on en avait parlé avec Nico, il faut peut-être distinguer deux choses. Il y a la tendance aux classes inversées, et donc c'est vrai qu'il y a par exemple une centaine d'écoles aujourd'hui en Fédération de Bruxelles qui ont fait le choix d'une intégration ultra poussée du numérique avec une ASBL qui s'appelle Educati. Voilà. Donc dans ces écoles, on est en mode classe inversée, il y a un ordinateur par élève, c'est la même chose, etc. Nous, on n'a pas regardé un projet spécifique d'intégration poussée au numérique. On a regardé dans l'ensemble des écoles, aujourd'hui avec comment ça fonctionne, est-ce qu'il y avait un besoin ou pas ? Et ce besoin, il existe y compris là où il n'y a pas d'éducation de classe inversée. Et c'est pour ça, pour le dire de façon encore plus claire, quand on a commencé à travailler sur la question, notre intuition était de dire, en fait, les budgets de la Fédération de Bruxelles étant ce qu'ils sont, notre sensibilité propre sur la question numérique étant que il faut raisonner aussi les temps d'apprentissage numérique, pourquoi est-ce qu'il est nécessaire d'avoir un ordinateur par élève ? Et puis, en regardant les pratiques de terrain, on a vu que 90% des élèves de secondaire avait besoin aujourd'hui dans le système actuel d'un ordinateur et que le coût était essentiellement à charge des familles. Et donc dans le cadre actuel, on propose effectivement d'avoir un ordinateur gratuit par élève en première secondaire, de la même façon que maintenant de la première à la troisième primaire ou qu'en maternelle, eh bien les bics, les crayons sont donnés gratuitement parce qu'on considère que l'enseignement doit être gratuit, que les moyens de production de la connaissance doivent être gratuits pour les parents. Mais si on changeait le cadre, si par exemple on allongeait la journée scolaire et que la question du travail à domicile dont on sait ce qu'il crée en termes d'inégalité était réintégrée à l'école, et là on pourrait imaginer les choses de façon différente et sans doute plus collective, mais dans le cadre actuel, c'est une injustice fondamentale que de demander aux parents, et ça augmente les inégalités, que ce soit eux qui payent ces ordinateurs qui leur coûtent un pont et qui augmentent les inégalités d'une famille à l'autre.
Merci à tous les trois pour vos interventions. J'ai une question conjointe plutôt pour la Ligue des familles et Lire et écrire. Est-ce que vous collaborez ensemble maintenant pour vos recommandations ? Et je me posais deux questions. La première, c'est par rapport aux procédures d'inscription, est-ce qu'il y a dans vos recommandations une insistance sur la simplification de ces procédures ? Ça veut dire qu'en soi, on peut y accéder, mais elles sont effectivement tellement complexes dans le cadre de l'allocation d'études, par exemple. Parce que pour les formateurs et les formatrices en alphabétisation, auprès de publics qui sont aussi des parents d'élèves, pédagogiquement, ça a un intérêt de travailler sur ces procédures pour les apprenants, mais leur complexité fait que ça rend la chose... leur complexité et leur mise à jour perpétuelle. C'est-à-dire qu'on ne peut pas travailler un jour sur quelque chose, deux mois plus tard, ça va changer. Donc je me posais la question s'il y avait une insistance en particulier sur la simplification, si la recommandation générale est l'utilisation modérée du numérique. Et la deuxième question, c'est est-ce que vous avez déjà quelques retours de vos discussions avec, je dirais, les deux gouvernements, Fédération Wallonie-Bruxelles et la région bruxelloise, dans le cadre de vos propositions?
Moi, je réponds rapidement à la première question par rapport à ce qui concerne les apprenants de lire et écrire. Je ne sais pas exactement, parce qu'il y a quand même 5 centres d'alphabétisation qui travaillent chaque formateur sur des questions différentes. C'est les apprenants qui amènent, qui proposent sur quoi travailler, si c'est les logements, si c'est les travaux qui les intéressent plus, et si c'est d'autres questions. Mais ce que je vois, c'est que les difficultés communes des apprenants et sur quoi on travaille pas mal, c'est plutôt sur la question de l'emploi, faire un CV, envoyer un CV avec une pièce jointe, des choses comme ça. Les bacs, c'est une question majeure pour les personnes alphabètes. Ils n'arrivent pas à utiliser les applications bancaires. Il y a pas mal de formateurs qui travaillent sur comment utiliser une application bancaire. Et des autres questions de ce type-là. Les demandes d'allocation d'études n'est pas... Il y a un pourcentage de personnes qui viennent chez nous qui sont des parents avec des enfants en secondaire. Mais il y a quand même un pourcentage qui n'est pas... Je sais pas comment dire. Il y a des autres questions qui touchent tous les apprenants et sont sur ces questions souvent qu'on travaille. Et donc on travaille pas tellement sur les et qui en plus, je pense qu'il y a tellement de difficultés pour remplir ces documents là, qui je pense que ça c'est un peu triste à dire, mais ça vaut pas la peine de travailler toute une année pour savoir remplir ces documents là, qui finalement font les enfants à la place des parents dans notre cas ou les personnes.
Est-ce que vous demandez dans...
Je vais peut-être y venir du coup.
Alors, ah oui, tout à fait.
Ouais, voilà. Tout à fait. Donc, premier point de contexte, nous on est d'autant moins concernés sur l'allocation d'études que historiquement, en fait, c'est notamment la Ligue des Familles qui a créé le premier système d'allocation d'études, puis ça a été repris par le gouvernement, ça a été généralisé, donc on continue d'y faire attention. Deuxième chose de contexte, c'est que actuellement, il y a une réforme en cours, en réflexion des allocations d'études, qui est menée par la ministre de l'Enseignement supérieur, donc Françoise Berthiaud du MR. Et là-dessus, c'est assez, pour ne pas le cacher, compliqué pour l'instant, parce que elle avait annoncé des premières intentions et orientations qu'on trouvait très intéressantes. Ses calculs étaient mauvais, donc on a affiné les calculs, ce qui a abouti à montrer que sa réforme, en tout cas avec ce qu'elle mettait aujourd'hui sur la table comme budget, elle n'y arriverait pas du tout, puisque avec les orientations qu'elle proposait, elle mettait au départ sur la table 6,4 millions d'euros pour la réforme, et en fait il en fallait plus d'une centaine. Donc il y avait un problème. Donc on a demandé des moyens supplémentaires. Elle a pas demandé de moyens supplémentaires au conclave budgétaire qui vient de se terminer. Donc on reste avec 6,4 millions. Donc pour l'instant on repart sur, sans doute, on sait pas, une feuille blanche peut-être. En tout cas on va voir. Dans le cadre de cette réforme, comme on l'a toujours demandé, et on n'est pas les seuls, il y a plein d'acteurs, donc on va être beaucoup plus radicaux que de demander une simplification des formulaires. On veut une automatisation, l'octroi des allocations d'études. Donc c'est-à-dire, comme ce qui se passe en Flandre, à partir du moment où il est reconnu via les échanges de données que tu as le droit d'avoir une allocation d'études, eh bien, tu reçois directement la situation. Alors ça peut se faire en deux étapes, hein. D'abord, on fait un formulaire de demande simple, et c'est l'octroi de l'allocation et la vérification qui se fait derrière toi. Et puis dans une deuxième étape, ça pourrait être même simplement le fait de, parce que sinon il y a un non-recours au droit très important qui se crée, parce qu'il y a aussi, particulièrement en secondaire, plein de parents qui savent pas que les allocations d'études c'est prévu aussi pour le secondaire et qui peuvent y avoir accès. Donc ça c'est une des demandes qu'on fait, mais il y en a d'autres. La deuxième question, parce que je me suis emballé, c'était sur les discussions par rapport à ça. Justement, cet après-midi, c'est la raison pour laquelle je peux pas être avec vous tantôt, c'est qu'on rencontre le ministre-président qui est celui qui a tiré cette stratégie numérique, et donc on va amener cette proposition. Donc notre enquête, on est très heureux de ça, a eu une médiatisation suffisante au début de l'année pour montrer à tout le monde qu'en fait il y a un problème, que le fonctionnement par subside et la façon dont les écoles l'utilisent, ça fonctionne pas, qu'il y a plus de 10 millions d'euros qui chaque année sont mis sur la table, sont pas utilisés. Et donc on sait que au sein du gouvernement ils disent on peut plus fonctionner en tout cas avec le système actuel. Et donc la question est très ouverte, on sait pas encore de dire s'ils vont faire des aménagements à la marge ou s'ils sont d'accord de repenser de façon plus profonde le système. Et donc nous on va amener cette proposition tantôt. Je sais pas encore te dire ce qui va en être, mais en tout cas on va la défendre.
Ces 10 millions d'euros, là, ils restent en dormance ou
ils sont utilisés pour autre chose ? Non, ils ne sont pas utilisés chaque année. Donc 15 millions d'euros sont mis sur la table. Sur les 15, il y en a 2 millions qui sont utilisés pour réduire le coût. Il y en a encore 2 ou 3 millions qui sont utilisés pour des technopédagogues pour soutenir des écoles, en tout cas aujourd'hui. Et leur...
et ça
s'accumule ?
Non,
c'est... donc chaque année, donc, ils mettent 15 et puis ils remettent le montant. Voilà.
Et par rapport aux inscriptions scolaires, je voudrais dire que, comme je vous ai dit, on est dans une campagne contre l'ordonnance Bruxelles numérique pour l'instant. On est contre une ordonnance, c'est-à-dire une loi régionale à Bruxelles qui va numériser tous les services publics, ça, pas souci, mais qu'en même temps, on veut une garantie d'un guichet, d'un service téléphonique pour chaque service régional et communal. On est dans ce combat pour l'instant, vous pouvez voir notre cher l'éducote qui a travaillé avec nous et donc ça va passer par les parlements les prochaines semaines, on est à fond sur ça pour essayer de garantir ça et en même temps on a préparé je pense que je vais vous dire, une lettre pour chaque commune qui propose exclusivement un moyen numérique pour inscrire les enfants pour les dire voilà il y a un souci avec ça et en plus parler aussi de la communication parents parents-école, parce qu'il y a aussi certaines communes, je n'ai pas parlé de ça, qui maintenant forcent exclusivement la communication numérique à Bruxelles, comme par exemple Saint-Gilles, qui est là.
Tous les services, c'est pas que dans les administrations, c'est les banques, est-ce qu'il y a quelque chose au niveau du gouvernement
En fait, il y en a...
Peut-être que l'État fasse quelque chose.
Bon, on est tout à fait d'accord. On pense que c'est le service essentiel qui devrait faciliter un accès non numérique pour les personnes en difficulté. Mais ça, c'est au niveau fédéral. Et je pense qu'il y a mes collègues de l'IRP communautaire qui travaillent au niveau fédéral. Mais ce n'est pas du tout gagné, je pense.
Oui, oui, mais on va peut-être... Là, on va rentrer dans un autre débat. Peut-être qu'on pourrait nous mobiliser toute l'après-midi. Donc, on va plutôt maintenant prendre notre pause.
J'aurais encore voulu juste dire une chose avant que Merlin parte. C'est sur la question, pourquoi un gouvernement réactionnaire comme le gouvernement suédois.
Ah, je m'étonne que t'es pas encore.
Je n'en ai pas eu l'occasion. Pourquoi un gouvernement, mais je voulais le dire avant que tu parles. Pourquoi un gouvernement réactionnaire comme le gouvernement suédois recule aujourd'hui sur la question de la numérisation scolaire? Les classes sociales dirigeantes ont de tout temps souhaité que leurs propres enfants et une scolarisation à l'abri de la scolarisation au rabais pour les classes populaires. En Suède, ce gouvernement réactionnaire, aujourd'hui, recule par rapport à un acquis de plusieurs décennies sur la question du marché scolaire, donc il réintroduit du libre marché scolaire, il recule sur la question du tronc commun, il est en train petit à petit de reculer sur la question du tronc commun. On voit les inégalités sociales dans l'enseignement suédois qui sont en train de grandir, qui sont en train de s'accroître. Et ce gouvernement réactionnaire est mis sous pression par son électorat de droite, familles riches, familles aisées, qui disent « mais nous, on ne veut pas de cet enseignement au rabais qu'on est en train de mettre en place pour les enfants des classes populaires. Ça, c'est bon pour ceux qui iront occuper les emplois à faible niveau de qualification, qui auront besoin juste d'avoir acquis les compétences de base et de la flexibilité. Mais nous, nos enfants, ce seront les élites sociales de la société. Et pour eux, on veut toujours un bon enseignement avec un professeur, avec des manuels, avec du temps d'échange et pas un ordinateur. » C'est ça la position du gouvernement réactionnaire suédois. C'est une position de classe. C'est exactement la même raison pour laquelle le patron de cette entreprise met ses enfants dans une école où il n'y a pas d'ordinateur.
Ouais. Sauf que la proposition que le gouvernement, c'est sur l'ensemble des écoles, et c'est de façon générale.
Non, la proposition, c'est de ne pas rendre le passage numérique obligatoire dans toutes les écoles. Qu'est-ce qui va se passer? Ça sera obligatoire dans les écoles au rabais, dans les écoles populaires, parce que ça coûtera moins cher, et ça restera facultatif, et on en fera moins dans les écoles aisées, pour les enfants de riches.
Ça, il faudra voir. Moi, je voulais juste insister sur le fait que, quel que soit l'endroit, en fait, le discours qui est amené, par exemple, par Gabriel Attal en France, aujourd'hui, ou par ce gouvernement suédois, le discours, c'est dire le niveau baisse. Et c'est quelque chose de super fort, surtout depuis Covid. Donc, on oublie complètement le contexte. On oublie de dire, en fait, avec la numérisation, justement, et le distanciel, mais les gens se sont retrouvés dans des difficultés d'apprentissage majeures. Et on n'a pas su, et c'est une réalité, quand on regarde, on n'a pas su rattraper parce qu'en fait, ça a fait du dégât. Voilà, ça a fait du dégât. Et donc, le niveau baisse. Et donc, par ce niveau baisse, ben, on trouve des solutions. Chez eux, ça va être de pointer le numérique. En France, ça va être d'autres choses, de dire il n'y a pas assez de mathématiques et de français. Et donc, c'est la même chose partout. Et c'est sur ces compétences de base dont tu parlais. Mmh. Et donc, c'est évidemment pas sur la question de apprendre, justement, avoir les connaissances et la réflexion critique. Et c'est ça que nous, on veut amener. Ce qui est important, c'est numérique ou pas numérique, c'est sur qu'est-ce qu'on en fait, c'est les connaissances et les compétences critiques, l'esprit critique par rapport à ça, que c'est important aussi d'avancer.
On est d'accord.